Gloire à Dieu. Alléluia. Comme je le disais, je venais de le dire tout à l'heure, j'aimerais que l'Esprit de Dieu puisse vous toucher en profondeur. Que tout ce qui jaillit de l'œuvre que le Christ a accomplie sur cette croix puisse se manifester dans ta vie, mon frère, ma sœur. Que tu puisses jouir et prendre possession des promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et qu'on puisse les expérimenter. J'aime beaucoup une parole de l'Écriture, c'est une parole de l'apôtre Jean au chapitre 7 de l'Évangile de Jean au verset 38. L'apôtre Jean dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Qui c'est qui croit en lui cet après-midi? Si vous ne croyez pas encore en lui, je vous encourage à faire une démarche de foi. Vous savez, un homme est allé voir Jésus, son nom était Nicodème, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, et Nicodème, il a une certaine foi, il croit que Jésus est envoyé de la part de Dieu, qu'il est un docteur de la loi, et puis que et s'il n'était pas l'envoyé de Dieu, il ne pouvait pas faire les miracles qu'il fait. Et Jésus va lui répondre d'une façon étrange. Jésus va dire à Nicodème, « Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Et j'aimerais que vous soyez tous nés de nouveau. Pourquoi c'est important de naître de nouveau? Et c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quatre choses. La première chose, on l'a vécu cet après-midi, et certainement que vous le vivez dans vos maisons, c'est la repentance. C'est là où on plaide coupable, où on reconnaît nos manquements, nos fautes. Dans cet aspect de la repentance, il y a aussi le fait de pardonner à autrui, parce que quand on prie le Notre Père, on dit « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et c'est intéressant de voir que, après le « Amen » du Notre Père, Jésus continue de parler, et la plupart des chrétiens ne savent pas ce que Jésus dit juste après le « Amen » de Matthieu 6 au verset 14. Qu'est-ce que Jésus dit juste après le « Amen » ? Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes, Dieu vous pardonnera. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. » Donc c'est très dur d'une certaine manière, mais c'est une contrainte. Christ, il a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la grâce, le pardon, la restauration, l'espérance de la gloire. Et à notre tour, nous devons impérativement pardonner à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'offense ici? Nous avons tous eu des offenses. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui n'a jamais offensé quelqu'un d'autre? Nous avons tous offensé autrui. Et j'aimerais vous encourager, comme ma fille l'a souligné, pardonner. Pardonner, c'est un choix, c'est une décision, c'est pas juste une émotion, j'ai le cœur de le faire. Notre réaction naturelle, quand on est offensé, notre réaction naturelle, il vient l'amertume, il vient le ressentiment, il vient toutes sortes de sentiments mauvais en nous, où on aimerait se venger, mais Jésus nous dit, bénissez vos ennemis. Et quand on bénit nos ennemis, c'est pas parce que c'est bien ce qu'on nous a fait, c'est pour éviter que les choses mauvaises viennent s'installer en nous. Comprenez? Et puis, vous devez impérativement, frères et sœurs, vous devez vous pardonner à vous-même. Là où vous avez fait des mauvais choix, là où vous avez pris des mauvaises décisions. Christ est venu pour nous pardonner, mais il veut aussi qu'on se pardonne à soi-même. On ne pourra pas aimer notre prochain si on est fâché contre soi-même. Vous comprenez cela? Et puis l'élément deuxième par rapport à cet aspect de la nouvelle naissance, c'est de placer clairement notre foi en Jésus-Christ et de croire que c'est lui qui est le Sauveur. Je dirais que la repentance, elle est orientée vers Dieu, notre Père. Mais la foi pour le salut, elle est orientée vers le Fils, vers Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains 10, au verset 9 et 10. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesse avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, de cette manière-là, tu es justifié et sauvé. Et c'est une grâce de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité, ni les uns, ni les autres. Nous n'avons pas mérité cela. C'est une grâce de Dieu de A à Z, le salut. Et j'aimerais que personne ne se prive du salut. J'aimerais mentionner une autre écriture. L'apôtre Paul écrit dans le premier chapitre des Colossiens, au chapitre 1er, au verset 26 et 27, l'apôtre Paul dit qu'il y a un mystère qui était caché depuis très, 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 très longtemps à travers tous les âges, et un mystère qui est resté caché, mais qui est révélé maintenant. Et il dit, ce mystère envers les païens, c'est-à-dire envers les non-juifs, c'est l'espérance, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quel est ce mystère? J'aimerais mentionner deux choses par rapport à ce mystère dont l'apôtre Paul parle. Il faut comprendre que la venue du Messie pour Israël, parce qu'Israël est le pays de la promesse, c'est un peuple terrestre que Dieu a choisi, au travers duquel Dieu va se manifester encore, et ils attendent la venue du Messie. Et rien pour nous, les païens. Et tout à coup, Israël rejette son Messie, en tout cas une partie d'Israël, et le Messie d'Israël devient le sauveur de nous tous, c'est-à-dire des non-juifs. Il est devenu notre sauveur. Ce n'était pas prévu dans l'Ancien Testament. Il était prévu qu'il y ait un Messie pour Israël, et le Messie d'Israël est devenu le sauveur du monde. Et il y a un deuxième mystère que l'apôtre Paul souligne ici, ce deuxième mystère. Il dit, avant de pouvoir aller habiter chez Dieu, vous savez qu'un jour on ira dans la présence de Dieu. On va être face à face avec Dieu. On va se tenir dans sa présence, on va vivre avec lui, on va régner avec lui. Et l'apôtre Paul dit, avant que tu puisses aller habiter chez Dieu, parce que vous savez, pour l'instant nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par la foi. La manifestation pleine entière de l'espérance chrétienne, c'est parce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivrons quand nous serons réunis avec notre Seigneur et Dieu notre Père. Alors Paul dit, ce mystère, c'est que avant que tu puisses aller habiter chez Dieu, tu dois permettre à Dieu de venir habiter en toi. Est-ce que tu as permis à Dieu d'habiter en toi? L'apôtre Paul, dans Romains 8, au verset 11, l'apôtre Paul dit, si tu permets à l'Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu permets à cet Esprit-là d'habiter en toi, alors ce même Esprit rendra la vie à ton corps mortel. Accueillez cette présence de Dieu en vous. Donc, quand Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, repentance envers Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ d'une façon claire, nette et personnelle, et pas seulement globale, mais personnelle, être baptisé d'eau au travers duquel on s'identifie à notre attachement à Christ, et recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai une bonne nouvelle, si tu as vécu ces choses-là, la présence de Dieu, elle est toujours, il y a toujours de nouvelles étapes à vivre avec Dieu. Il y a toujours de nouvelles étapes à vivre avec Dieu. C'est pour ça que mon épouse tout à l'heure disait, ne mettons pas un point final là où Dieu n'a mis qu'une virgule. Parfois, il y a des questions ouvertes, mais Dieu est bienveillant à ton égard. Et j'aimerais cet après-midi, on va prier tout à l'heure pour vous, on veut s'attendre à ce qu'il y ait des miracles, des prodiges que Dieu opère au milieu de nous, parce que Jésus veut restaurer et guérir. Mais, pour que tu puisses être sauvé, tu as besoin d'une chose, c'est croire. Et pas seulement croire dans ta tête, croire dans ton cœur. Et pour que tu puisses expérimenter le miraculeux de Dieu, tu as besoin de la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1er, va dire, je vais lire peut-être le verset 6 d'abord, Hébreux 11, verset 6, il est dit, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Il faut que ceux qui cherchent Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'ils cherchent. Sans la foi, impossible. Nous avons besoin de la foi. Et quand on lit ce premier verset de Hébreux 11, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance. » Quelle est, mon frère, ma sœur, ta ferme assurance aujourd'hui? C'est quoi une ferme assurance? C'est quelque chose que tu rêves, C'est quelque chose que tu espères. C'est pas quelque chose où tu as mis un point final en disant, bon, Dieu m'a oublié. Dieu n'a oublié aucun de ses enfants. La ferme assurance. Vous savez que pour une poule, si elle veut avoir des poussins, elle doit pondre des œufs et ensuite elle va couver ses œufs. Et tout à coup, de cet œuf va sortir un petit poussin. Et je crois qu'il y a quelque chose en rapport avec la foi. Je crois que la foi, c'est croire et continuer à couver ce que tu crois, continuer à l'imaginer, continuer à le parler, continuer à le déclarer. La foi parle. La foi parle. Est-ce que tu parles la foi, mon frère, ma sœur, ou est-ce que tu parles l'incrédulité? Vous savez, je suis pas en train de vous traiter d'incrédule, nous sommes tous faits de la même pâte. Et l'incrédulité, c'est le propre de nous tous en tant qu'êtres humains. Nous avons la foi, et notre foi, elle va jusqu'à une certaine limite, et ensuite il vient du doute, il vient de l'incrédulité. Mais nous devons chercher à vaincre cette incrédulité pour continuer à permettre à notre foi de grandir. Plus ta foi va grandir, plus tu vas expérimenter les exaucements de Dieu dans ta vie. Et Dieu cherche. Dans tout ce que Dieu veut faire, il y a trop de chrétiens qui disent, ben, Inch'Allah, si Dieu le veut, il le fait. Moi, je fais rien du tout. Mais si Dieu veut faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. Vous n'allez pas vivre beaucoup de choses de cette manière-là. Vous devez coopérer avec votre foi pour que Dieu puisse agir. Dans Marc 9, il y a un homme qui a porté son fils vers les disciples de Jésus. Son fils était épileptique et les disciples n'ont pas pu le guérir. Alors Jésus, il n'est pas très doux avec les disciples. Hein. Il leur dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Puis ensuite, le père de cet enfant, il va vers Jésus, il dit, écoute, j'étais vers les disciples, mais visiblement ça marche pas. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et Jésus lui dit, comment ça? Parce qu'il lui dit, si tu peux. Puis Jésus lui dit, si tu peux. Mais il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Hello. Tout est possible. Il y a des gens qui tournent mal l'écriture. Il y a des gens qui disent tout est possible à Dieu. Mais ça, même les gens qui sont pas croyants, ils croient ça. Ils disent s'il y a un Dieu, certainement qu'il peut tout faire. Mais Jésus dit pas cela dans ce texte. Dans ce texte, Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et j'aime beaucoup l'attitude de cet homme. Il dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ensuite, Jésus va parler avec le papa, et puis la foule est en train d'arriver voir ce qui se passe, et Jésus menace cet esprit, et l'enfant est délivré. Alors les disciples, ils ont une question. Une question bien légitime en disant, Jésus, pourquoi toi tu as réussi à délivrer l'enfant, puis nous on n'a pas réussi? C'est une bonne question. Et Jésus va dire quelque chose de surprenant dans ce texte de Marc 9. Il leur dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Et je pense qu'on a compris partiellement ce texte. Et la plupart des gens pensent que Jésus était en train de parler de l'esprit qui était dans l'enfant. Et que pour que cet esprit sorte de l'enfant, il faut jeûner et prier. Mais je ne crois pas que c'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de parler d'autre chose. Il est en train de parler aux disciples. Et il dit à ses disciples, cette sorte d'esprit, et je pense qu'il est en train de parler de l'incrédulité, et non pas de l'esprit qui est dans le cœur, dans la vie de l'enfant. Il dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Dans cette période de carême, cherchez Dieu. Peut-être jeûner un jour, jeûner un repas, pour dire, Seigneur, je veux que l'incrédulité, elle parte de ma vie. Je veux être un homme et une femme de foi. Tout à l'heure, j'ai mentionné ce texte de Jean 7, 38. Celui qui croit, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Et j'aimerais non seulement que cet après-midi, je voie des personnes guéries, restaurées, mais j'aimerais que tu deviennes un instrument. Et je te lance un défi, mon frère, ma sœur. Que tu puisses devenir un instrument dans les mains de Dieu, au travers de duquel la vie de Dieu peut couler. La manifestation de la puissance de Dieu va commencer à opérer. Travaille la foi. La foi est une ferme assurance. J'ai un ami pasteur. Il dit, le langage de l'Esprit Saint, c'est les visions et les rêves. Et il dit, si tu veux avoir la foi, il faut prendre ton cœur, un peu comme un tableau sur lequel tu vas dessiner, et sur ce tableau de ton cœur, commence à mettre des visions et des rêves. Des choses que tu veux voir. Est-ce que c'est juste de dire cela? Est-ce que c'est scripturaire de le déclarer? Il y a beaucoup de puissance quand vous imaginez quelque chose qui est de Dieu et que vous continuez à l'imaginer et que vous continuez à le poursuivre. Dieu va utiliser ce moyen en faveur d'Abraham. Si vous allez dans Genèse chapitre 15, Abraham a une vision. Et dans cette vision, Dieu lui dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham, qui s'appelait encore Abram à ce moment-là, il dit à Dieu, Dieu, la réalité c'est que je m'en vais sans enfant et que l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Dieu lui dit, non, tu auras une descendance et ta descendance seront plusieurs nations. De ta descendance vont sortir plusieurs nations. Et Abraham a de la peine à croire cela. Qu'est-ce que Dieu fait avec Abraham? Il lui dit, viens un peu, sors de ta tente. Et puis tu lèves tes yeux et tu commences à compter les étoiles du ciel, car telle sera ta descendance. Il le conduit dans le monde imaginaire, en comptant les étoiles du ciel, en lui disant, si tu es capable de commencer à imaginer ce que je vais faire, compte les étoiles du ciel, car telle sera ta descendance. Nous sommes trop souvent, nous avons une foi qui est passive. Et j'aimerais vous encourager à avoir une foi qui est active. On veut enlever ce point final, on veut juste mettre une virgule, et on dit, Seigneur, je continue de croire. Peut-être tu n'as pas été rejoint exactement ce que tu aurais aimé, mais dis, continue de croire. Alors tu peux imaginer, mais tu peux aussi parler. Dans Proverbes 18, 21, Salomon va dire la chose suivante. Il va dire la vie et la mort. Hello. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il y a un pouvoir incroyable dans ta bouche. Mais si tu dis, oh c'est fichu, moi ça marche pas, Dieu il a des petits chouchous, il guérit les uns, mais moi il n'a jamais guéri, puis moi Dieu m'aime pas. Si tu dis des choses comme ça, tu es en train de te faire du mal, tu es en train d'abîmer ta foi plutôt que de la construire. Déclare, ta foi elle doit déclarer, ta foi elle doit parler. Quels sont ceux et celles d'entre vous qui veulent avoir une grande foi? Je veux vous montrer trois attitudes que nous pouvons adopter face aux situations, aux épreuves, face à la maladie, face à ce qui peut nous arriver dans la vie. Je vais vous montrer trois possibilités que vous puissiez adopter. Ou trois manières d'exercer votre foi. Trois comportements. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, je crois que c'est à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées et lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, lui disant, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « C'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle dit, « Oui, Seigneur !» Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Quels sont les obstacles incroyables que cette femme va rencontrer? Le comportement de cette femme, c'est pas le meilleur comportement. C'est un comportement de panique. Mais elle a du mérite, cette femme. On va regarder juste rapidement, je vais aller très vite. Quels sont les obstacles qu'elle a dû traverser pour recevoir l'exaucement? Alors elle crie, « Aie pitié de moi, Seigneur !» Et qu'est-ce qui se passe? Silence. Il est dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. J'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Les silences de Dieu sont parfois aussi une réponse. Et Jésus ne lui répond pas. Alors les disciples, eux, ils ont trouvé la solution. Ils ont dit, Jésus, renvoie-la à la maison parce qu'elle nous casse les oreilles. Silence de Dieu, premier obstacle. Deuxième obstacle, le rejet. On pouvait s'attendre un tout petit peu mieux de la part des disciples, n'est-ce pas? Eux, ils ont trouvé la solution, ils ont dit, Jésus, tu la renvoies à la maison, comme ça on est débarrassé, puis elle arrête de crier derrière nous. Et elle aurait dit, bonne raison de quitter, mais elle n'a pas quitté. Combien d'entre nous, on a quitté parfois le chemin à cause du rejet, ou à cause des silences de Dieu? Et enfin, Jésus s'adresse à elle. Et ce qu'il lui dit en premier lieu dans ce texte, il lui dit, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, il lui dit, tu n'es pas née du bon côté. Tu n'es pas une juive. L'indifférence. Et cette femme aurait pu partir là, mais elle est restée. Puis Jésus lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants. Moi, j'aurais pas aimé être à la place de cette femme quand Jésus vient te dire, c'est pas bien. Mais elle reste. Puis elle la traite de petit chien. Alors, je sais que c'est comme ça qu'on traitait les non-juifs. Mais l'orgueil, là, il en prend un petit coup. Combien d'entre nous, parce qu'on n'a pas été traité comme on aurait aimé être traité, on a battu en retraite. Mais cette femme, elle est restée. Et quand Jésus lui dit cela, cette femme, elle dit, oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Mais les petits chiens, ils ont droit aux miettes qui tombent de la table. Donc cette femme est venue, elle a traversé ces différents obstacles. Le silence, le rejet des disciples, l'indifférence de Jésus, la peur que Jésus dit c'est pas bien, et la barrière de l'orgueil. Mais elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens, ils ont droit aux miettes qui tombent de la table. Et là, Jésus fait une déclaration extraordinaire. Et je souhaite que Dieu puisse faire cette même déclaration sur ta vie, mon frère, ma sœur. Où Dieu dit à cette femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Waouh ! Dieu va répondre à la foi. Dieu va répondre à ta foi. N'abandonne pas. On enlève, on efface, on prend la gomme, on efface le point final qu'on a mis. On met une virgule. C'est pas fini. Continue de croire, recommence de croire, recommence d'imaginer ce que Dieu va faire, recommence à parler ce que Dieu va faire pour que tu puisses l'expérimenter. Un comportement de panique. On veut regarder un autre comportement. C'est celui du centenier dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, à partir du verset 5. Comme Jésus rentrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. À un autre, vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. J'aime beaucoup cette histoire du centenier. Il ne vient pas pour lui-même, il vient pour quelqu'un d'autre. Quelque chose que vous savez bien, frères, mes frères et sœurs catholiques. Souvent, vous venez pour les autres. Il vient pour son serviteur. Lui, il est un officier, il est un centenier. Et il vient pour un de ces personnes qui est en dessous de lui. Mais c'est un homme de compassion. Et il va voir Jésus. Et je ne sais pas comment vous auriez réagi si vous aviez été à la place du centenier et que Jésus lui fait l'offre qu'il lui a faite, une offre exceptionnelle. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Et cet homme, il dit, « Non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Imaginez. Il aurait dû profiter et dire, « Jésus, oui, viens guérir mon serviteur. » Il dit, « Non, Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. » Et ici, il explique un principe de la foi. Il l'explique très, très bien. Ce n'est pas un juif, ce centenier, c'est un romain. Il ne connaît pas la loi de l'Ancien Testament. Il ne connaît pas la Torah. Mais lui, il sait une chose. Lui, dans l'armée romaine, il a appris des principes militaires. Et il dit à Jésus, écoute Jésus, moi je suis un centenier, j'ai des hommes qui sont plus gradés que moi en dessous de moi et je leur obéis, mais en dessous de moi j'ai des hommes et ces hommes ils m'obéissent. Alors tu n'as pas besoin de venir Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. À quoi il pense, monsieur? À quoi il pense, ce centenier? Il a compris que Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel, qu'il est le chef de l'armée du ciel. Et il dit, mais tu n'as pas besoin de venir. Tu fais comme moi à l'armée, tu donnes tes ordres, Jésus. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de te déplacer, de venir voir mon serviteur. Tu déclares. Et moi, dans l'armée, quand je donne un ordre, il y a toujours quelqu'un qui m'obéit. Alors Jésus, tu donnes un ordre. Il a compris un principe de la foi. La foi parle, je vous ai dit tout à l'heure. La foi déclare. Et il dit à Jésus, mais dis seulement un mot. Jésus avait marché avec les Juifs à travers la Judée, la Samarie. Et là, il est en relation avec cet officier de l'armée romaine, ce centenier. Et Jésus se tourne vers la foule qu'il suit et il leur dit, « Dans tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. » Jamais vu une pareille foi. Un non-juif qui lui dit, « Non, Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Tu déclares simplement une parole et je sais que mon serviteur sera guéri. » Le même principe que j'utilise dans l'armée, il va fonctionner dans le monde spirituel. Je veux que vous compreniez quelque chose, mes frères et sœurs. Si vous êtes des enfants de Dieu, Dieu vous a incorporé dans son armée. Et il vous a donné une autorité. Et Jésus déclare dans Luc 10 au verset 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est pas juste nous qui sommes ici devant qui avons de l'autorité. Vous faites partie du peuple de Dieu. Qui c'est qui est un enfant de Dieu ici cet après-midi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous a incorporé dans son armée. L'armée spirituelle, l'armée du ciel. Et j'aimerais que tu commences à fonctionner dans cette armée. Tu commences à donner des ordres, en commençant peut-être dans ta propre vie. Je suis toujours surpris. Je prie pour tant et tant de malades. Et je dis aux malades, ils me disent, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais toi pour que ça change? Moi, je m'attends au Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi tu parles pas à ton corps? Je veux que vous sachiez, si vous parlez à votre corps va réagir. Hello? Tu as besoin d'un miracle? Commence à parler à ton corps. Tu as des douleurs à un endroit? Commence à parler à cet endroit de ton corps. Donne des ordres à ton corps. Fais des expériences avec Dieu. Et ensuite, tu vas pouvoir le faire pour d'autres. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire que la vie que Dieu a déposée en toi, elle doit pouvoir se déverser dans la vie d'autres personnes. Et tu ne dois pas être comme un mendiant. Je me suis promené un peu là, j'ai vu un ou deux mendiants. Ils sont assis dans la rue et que... Vous n'êtes pas des mendiants, vous êtes des fils et des filles. Comporte-toi comme tel. Prends conscience que Dieu t'a incorporé dans son armée. Amen. Donc, premier comportement, comportement de panique. Deuxième comportement de ce centenier, on pourrait dire un comportement d'autorité. Il a compris le principe de l'autorité. Et à la fin, Jésus déclare une parole. Il lui dit, va, qu'il soit fait comme tu veux. Et à l'instant même, son serviteur est guéri. Troisième comportement. Luc 17. Luc chapitre 17. C'est les disciples qui font une requête à Jésus. Et voici ce qu'il demande à Jésus, chose que j'ai demandé plusieurs fois et qu'il ne m'a pas exaucé. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette prière? J'ai une mauvaise nouvelle. C'est inutile. Jésus n'a pas répondu à cette prière. Mais Jésus donne la clé. Comment trouver une foi plus grande? C'est pas dire, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un peu plus de foi. Qu'est-ce que Jésus dit? À la suite, on va lire. La suite du verset 6. Donc ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus leur dit, si vous aviez la foi, comme un grain de senevé. Est-ce qu'il y en a qui ont la foi comme un grain de senevé? On a au moins la foi comme un grain de senevé, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez cette foi? Est-ce que vous savez que Dieu vous a donné une mesure de foi? De Romains 12 au verset 3, il est dit que Dieu nous a donné une mesure de foi. Et cette mesure, si tu l'utilises, elle va grandir. Et ici, Jésus dit, si vous avez de la foi, un tout petit peu de foi, vous auriez parlé au sycomore. Et le sycomore, il vous aurait obéi, il se serait jeté dans la mer. La puissance de vos paroles. Vous devez coopérer avec Dieu en mettant votre foi en action, en parlant la foi, en déclarant la foi. Dans Marc 11, au verset 23, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, ici il y aura des doutes, mais il dit s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit va arriver, il le verra s'accomplir. Vous êtes censé parler à vos montagnes. N'ayons pas une foi passive en disant « Inch'Allah, si Dieu le veut ». Je veux que votre foi grandisse, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez recevoir ce que vous avez besoin. Et vous savez, la foi, c'est très pratique. Je veux vous donner encore une ou deux facettes de la foi. Une première facette de la foi, mes frères et sœurs, c'est que notre foi chrétienne, elle repose sur un événement historique. Hello. Nous ne sommes pas en train de croire en un Dieu qu'on n'a jamais vu. Et c'est vrai que nous n'avons jamais vu Dieu. Nous voyons sa création, nous voyons son œuvre, nous voyons la merveille qu'il a fait en nous créant, même si on était abîmé un peu par le péché. Mais on n'a jamais vu Dieu. Mais notre foi, elle repose sur un événement historique. Et cet événement historique, c'est que Christ est venu dans ce monde. C'est que Christ est mort sur la croix et que le troisième jour, il est ressuscité. Ça, c'est le fondement de la foi. Si ça ne s'est pas passé, notre foi est vaine, dit l'apôtre Paul. Mais ça s'est passé. C'est un événement historique. Et aucun historien n'a pu balayer cela du revers de la main. S'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Le problème, c'est que Jésus est ressuscité. Jésus apparaît aux 12 apôtres. Puis il apparaît à plus de 500 personnes à la fois. 1 Corinthiens 15, verset 3 et suivant. Il apparaît à plus de 500 personnes à la fois. Puis il apparaît à tous les autres apôtres. Ça veut dire qu'il y en avait des autres. Et au moment où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit « La plupart des témoins oculaires, ceux qui ont vu Jésus ressuscité, sont encore vivants au moment où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. » Donc c'est un événement historique et c'est la raison pour laquelle nous sommes en 2018. Parce que ça a coupé l'histoire de l'humanité en deux. Il y a avant et il y a après Jésus-Christ. Ça, c'est un premier élément de la foi. Notre foi repose sur un événement historique. C'est que Christ est venu dans ce monde, c'est que Christ est mort et Christ est ressuscité. Un deuxième aspect de la foi. La foi, elle est pratique. Hello. La foi, elle est pratique. Si vous lisez, et je vous encourage de le lire, j'ai lu seulement le premier verset, le verset 6 de Hébreux 11. Mais Hébreux 11, c'est un chapitre sur les hommes et les femmes de foi de l'Ancien Testament. Relisez ce chapitre. Vous allez voir que par la foi, Moïse a fait telle chose, par la foi Abraham, par la foi Noé, par la foi Sarah, par la foi Enoch, etc. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont cru. Vous savez seulement ce qu'ils ont fait à cause de la foi. Ça veut dire que la foi, c'est très pratique. Tout à l'heure, il y a eu la quête. Votre manière de donner et d'honorer Dieu est un aspect très pratique. C'est pas juste un petit truc à côté. Ça fait partie de votre foi et vous allez donner un rapport avec votre foi. Vous allez agir en rapport avec votre foi. Vous comprenez ce que je veux dire? La foi est pratique. C'est pas juste quelque chose d'abstrait. On n'a pas besoin de crier « je crois, je crois, je crois ». On a juste besoin d'agir en rapport avec notre foi. La foi est verbale, la foi parle, et je vous encourage à permettre à votre foi de parler. Ne permettez pas à votre incrédulité de parler. Notre incrédulité veut parfois prendre le dessus et comme nous lier, puis nous enfermer en disant « de toute façon c'est fichu, moi je vais jamais m'en sortir, moi ça veut jamais aller ». Ne dites pas des choses comme ça, vous vous faites du mal à vous-même. Déclarez ce que vous croyez, et plus vous allez le déclarer, plus vous allez le croire. Vous devez parler sur votre futur. Qu'est-ce que vous souhaitez être dans une année, dans deux ans? Comment est-ce que vous voulez vivre la fin de votre vie sur la terre? Mais parlez! Pas seulement en public, tout seul dans votre chambre. Moi, je fais cela depuis des années. Je déclare sur ma vie ce que je vais être. Je permets pas juste, je suis pas juste dépendant des circonstances. Je veux faire que ma foi soit active. Et une des choses que je déclare, c'est que la puissance de Dieu va se manifester de plus en plus. Et je veux être l'un de ses instruments. Et je souhaite, mon frère, ma sœur, que tu deviennes un instrument de Dieu au travers duquel Dieu va pouvoir se manifester avec force. Et que même si ta foi, elle est petite, tu commences à l'utiliser, tu la fais, tu parles avec ta foi, tu déclares avec ta foi, ça ne veut pas dire qu'on obtient toujours tout de suite. Il est dit que Abraham a cru. Dieu lui a fait promis qu'il aurait une descendance. Il y a aussi eu des moments de doute chez Abraham. Mais il est dit que Abraham crut, qu'il ne douta pas par incrédulité, mais qu'il fut fortifié par la foi. Et j'aimerais que vous soyez un peuple plein de foi, plein d'autorité, plein de la puissance du Saint-Esprit, au travers desquels les miracles, les prodiges peuvent être opérés. Jésus veut restaurer les vies. Jésus veut guérir les malades. Jésus veut restaurer le corps, l'âme et l'esprit de l'être humain. Et Dieu aimerait que tu sois son instrument. Tu n'es pas juste là cet après-midi pour dire, bien, on va voir ce que Werner, il sait faire. Non, je veux que tu deviennes un agent, je veux que tu deviennes incorporé dans l'armée de Dieu et que tu œuvres en sa faveur et que tu oses témoigner, que tu oses poser tes mains sur les malades. Et puis peut-être tu vas pas réussir du premier coup. Vous voulez savoir comment il faut faire pour réussir? Il faut persévérer, comme l'a dit Frère Ernest tout à l'heure. Il faut persévérer. Percez et vous verrez. Vous voulez voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne? Eh bien, il faut percer à travers. Encore et encore. Si tu essayes et que tu t'arrêtes, tu vas échouer. Mais je veux vous dire une chose. L'échec n'est jamais un échec aussi longtemps que tu t'accordes pour suivre. L'échec devient un échec quand tu t'arrêtes. Hello. L'échec devient un échec quand tu t'arrêtes. L'échec, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la formation. Quand quelqu'un apprend une profession, quelqu'un veut faire mécanicien, vous croyez que vous le mettez pour démonter un moteur la première fois? Ça va être remonté comment? Il va lui rester un tas de boulons et qu'il va pas savoir où mettre. Et puis on trouve ça normal parce qu'il apprend. Et dans le monde chrétien, on a pensé que si tu as la foi, tu dois tout faire tout juste. Non, non, tu as le droit d'apprendre et tu as le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Si tu crois, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues. Encore et encore. Tu continues, mon frère. Il y a une onction de Dieu sur toi, mon frère. Là au milieu, là. Toi qui me regardes là. Oui, toi. Il y a un petit moment où je t'ai repéré. Tu es assez fort, tu es assez baraqué comme ça sur le plan physique, mais spirituellement, il y a une force dans ta vie. Et Dieu va faire que cette force, elle jaillisse de plus en plus. Elle va pas jaillir avec de la force, elle va jaillir avec beaucoup de douceur de toi. Parce qu'il y a un côté très doux à l'intérieur de toi. Et Dieu veut faire jaillir cette force. Et j'aimerais le dire pour chacun d'entre vous, Dieu veut faire jaillir de ta vie quelque chose de bon. Arrête de croire des mensonges du diable qui te dit que tu es nul, que tu vas pas y arriver. Ne le crois pas. Il faut revenir à la simplicité des promesses de Dieu. L'apôtre Paul dit, il faut que je regarde où c'est, aux Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens, ou c'est 1 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 20, sauf erreur, je contrôle. Je suis toujours dans le même thème. 2 Corinthiens 1, 20. Pour ce qui concerne, écoutez-moi bien, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, ça va jusque-là? J'ai une bonne nouvelle. Dieu dit oui. Mais il dit autre chose encore. Mais il dit le « Amen » est prononcé par nous. Et c'est pas juste un « Amen » religieux. C'est un « Amen, Seigneur, je le veux. ce que tu as promis, je le veux. Je veux le manifester. Je veux apprendre à aimer les gens. Je vais relever ces gens qui sont dans la souffrance. Je vais devenir un instrument de guérison. Je vais apprendre à prophétiser sur les autres. Je vais découvrir l'or qu'il y a dans la vie des autres. Pas juste la boue et puis les choses qui sont biaisées. Il y a de l'or dans chacune de vos vies, mes frères et sœurs. Dans chacune de vos vies, il y a des choses précieuses. Et le diable essaye parfois de les recouvrir avec toutes sortes de poussières, toutes sortes de saletés pour nous faire croire que nous sommes sans valeur. Il vous a racheté à grand prix, Jésus-Christ. Il a versé son sang, il vous a purifié. Vous êtes racheté. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous? C'est qu'on soit reconnaissant, qu'on le loue, qu'on l'adore et qu'on se mette à le servir. Mais je vois la vie de Dieu, ça va commencer à bouillir là à l'intérieur. Et c'est valable pour beaucoup d'entre vous. Je le dis à elle, prenez-le pour vous. La vie de Dieu va commencer à bouillir à l'intérieur de ton sein. Cette présence du Saint-Esprit qui donne la vie. Gloire à Dieu. Je vais prier. Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous allez commencer à déclarer ce que vous voulez voir dans vos vies? Ou est-ce que vous voulez juste continuer à faire des petites prières routinières habituelles? Non! Vous devez commencer à parler dans la foi. Pas devant monsieur et madame tout le monde. Va dans ta chambre. Vous savez qu'il y a un lieu où vous devez aller tous les jours. Ce lieu est décrit dans Matthieu 6, verset 6. Est-ce que vous irez demain dans ce lieu-là? C'est pas très loin de chez vous. Matthieu 6, 6, je vous laisserai découvrir. Est-ce que tout le monde a une Bible ici? Ok. Vous irez voir ce qui est écrit dans Matthieu 6, 6. Vous devez aller dans ce lieu. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je veux libérer la puissance guérissante de Dieu sur tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, du bassin et des jambes. Et je crois, écoutez-moi un instant, je crois que la puissance de Dieu va se manifester. Je viens de rencontrer, j'étais à Agen il y a quelques semaines, et là j'ai une femme qui vient me voir. Elle m'a dit, pasteur, vous ne me connaissez pas, mais j'ai été guéri par vous. Je dis, ça c'est bizarre. Elle me dit, je vous ai entendu prêcher à la télévision et vous avez dit la chose suivante. Je parle à une personne qui a des problèmes avec les genoux, qui a un problème avec la glande thyroïde et la puissance de Dieu va te guérir. Elle m'a dit, j'ai entendu ça à la télévision en écoutant enseignemoi.com. Et je suis devant la télévision, je dis, Seigneur, ça c'est pour moi. Et le lendemain matin, elle me disait, je ne pouvais plus descendre les escaliers chez moi. Je ne pouvais plus conduire ma voiture. Et le lendemain matin, elle descend les escaliers. Et quand elle est au bas des escaliers, elle dit, comment j'ai fait pour descendre les escaliers? Elle monte dans sa voiture. Elle conduit sa voiture qu'elle ne conduisait plus depuis des mois. Tous ces problèmes de glande thyroïde ont disparu en un seul instant. Je n'étais pas présent. C'était au travers des ondes. Elle m'a dit, totalement guérie de mes genoux, de façon totalement surnaturelle, je ne vous connais pas, je vous ai juste entendu parler. Je ne peux pas vous imposer les mains à tous cet après-midi, mais j'aimerais que tu mettes ta foi en action. Et si tu n'as pas reçu ton miracle immédiatement, commence à parler à ton dos, commence à parler à tes jambes, commence à déclarer ce que Dieu dit. Et parle dans la foi et reste dans la foi. Ne mets pas de point final, mets seulement une virgule si tu n'as pas encore reçu et continue de croire. J'aimerais inviter ceux et celles qui ont besoin d'un attouchement de Dieu dans leurs genoux, dans leur bassin et dans leur dos. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je prierai pour d'autres choses tout à l'heure. J'aimerais prier spécifiquement pour cela en cet instant. Waouh, il y a beaucoup de monde, hein? Alors voilà comment on va faire. Puisque je ne peux pas passer chez chacun d'entre vous, est-ce que je peux demander aux personnes qui sont autour de se lever et de poser vos mains sur vos frères et sœurs autour de vous. Vous allez vous imposer les mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous n'avez pas besoin de faire une grande prière. Je vais prier avec vous. Seigneur, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es mon guérisseur. Tu es le divin médecin. Je te remercie de ce que cet instant, j'ordonne à la douleur de quitter mon dos, de quitter mon bassin, de quitter mes jambes. Douleur, tu t'en vas. Je te chasse dans le nom de Jésus. Tu n'as pas le droit d'habiter mon corps. Parce que mon héritage en Jésus-Christ, c'est la santé. Et aujourd'hui, je reçois la santé. Et je reçois l'attouchement. Seigneur Jésus, je libère ta puissance. Et je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu opères dans la vie de mes frères et sœurs. J'ordonne à ces douleurs du dos de disparaître. J'ordonne à toute scoliose de se redresser. Là où il y a des problèmes d'hernie discale, la puissance de Dieu puisse opérer maintenant, à cet instant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à la douleur des genoux de disparaître. Je vous invite à bouger un peu vos jambes. Si vous avez des problèmes de genoux, bougez un peu. Bougez un peu votre corps. Si vous avez des problèmes de dos, faites pas des choses qui vous font mal, mais faites quelque chose que vous pouvez pas faire avant. Si on veut savoir si on va mieux, il faut bouger. Bouge, bouge un peu, bouge ton genou, bouge ta cheville, bouge ton genou, ton bassin, bouge un peu. Au nom de Jésus, je libère la puissance guérissante de Dieu dans ton corps maintenant. Et je donne gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a de la mobilité qui revient dans ton corps. Il y a de la douleur qui disparaît en cet instant. Je vois plusieurs dos qui sont tout restaurés. Je vois comme la main, la puissance du Saint-Esprit qui parcourt ton dos, qui restaure ton dos, qui redresse ton dos. Et la douleur s'en va dans le nom de Jésus. Douleur, tu t'en vas. Douleur, tu t'en vas. Tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, je te confronte dans le nom de Jésus. Je te chasse dans le nom de Jésus. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, je te confronte au nom du triomphe de Jésus-Christ à la croix et au nom de sa victoire. Et je te remercie, Seigneur, pour ta guérison dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui c'est qui est touché par Dieu? Qui c'est qui a senti un attouchement de Dieu? J'aimerais voir les mains de ceux qui ont senti que Dieu les a touchés pendant cet instant. Vous asseyez pas trop vite ici. Qui a senti l'attouchement de Dieu ici? Où sont les gens qui se disent, moi j'ai senti Dieu me toucher? Là-bas, oui madame? Là-bas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous continuez à rester dans la foi. Vous continuez à parler à votre corps. Faites pas juste des prières. Dieu, fais s'il te plaît. Parle à ton corps. Donne des ordres à ton corps. C'est puissant. Tes paroles sont puissantes. Parle à ton corps dans le nom de Jésus. Parle sur ton futur dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu va toucher les problèmes de nuque. Dieu va toucher les problèmes de nuque. Quels sont ceux qui ont un problème de torticolis ou qui ont des blocages au niveau de la nuque? Est-ce que je peux demander juste seulement à ces personnes-là de se lever? Ceux qui ont des douleurs au niveau de la nuque, qui ont souvent la nuque bloquée. Est-ce que je peux demander à celles qui sont autour de se lever et vous poser votre main sur les épaules? Dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur ces nuques bloquées, sur ces personnes qui ont eu des coups, le coup du lapin avec un accident ou d'autres choses. Je brise au nom de Jésus toute puissance diabolique qui a voulu bloquer ta nuque. Je te délie maintenant dans le nom de Jésus. Je brise tout lien maléfique, toute oppression diabolique sur ta vie. Et je libère la puissance guérissante de Dieu sur cette nuque. Que tu sois guéri maintenant par la puissance et l'autorité de Jésus. Reçois, reçois l'attouchement de Dieu. Reçois, Dieu est en train de toucher ma sœur. Toi ici devant, ma sœur, regarde-moi. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de vous toucher, madame, là, avec le foulard. Oui. Dieu est en train de te toucher. Ta nuque est en train de lâcher. Je le vois dans l'esprit. Ici aussi, madame, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Je libère la puissance guérissante de Dieu sur tous ceux et celles qui sont debout à l'arrière. Je libère la puissance guérissante de Dieu sur ses nuques. J'ordonne à ta nuque d'être débloquée à partir de maintenant. Et que cette nuque ne se bloque plus. Que ses douleurs disparaissent. Que tout ce qui est lié à de l'arthrose ou quel que soit le problème, j'ordonne dans le nom de Jésus. À cause des meurtrissures de Jésus, son sang a été versé pour nous purifier de tout péché. Mais dans ces meurtrissures qu'il a subies à la croix, là où il y a cette couronne d'épines, là où il y a ces coups de fouet où il était battu, il y a la guérison. Ce soir, reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison. Je veux prier. Vous savez que Jésus a eu cette couronne d'épines sur sa tête, que son sang a coulé parce qu'on lui a mis une couronne d'épines. Eh bien là, il y a la guérison pour les têtes. Quels sont ceux qui ont des douleurs de tête, des problèmes de migraine, des douleurs au niveau de la tête? Levez-vous, restez debout à votre place. Ceux qui ont des problèmes au niveau de la tête, je veux libérer cette puissance de ce que Christ a accompli à la croix au travers de cette couronne d'épines qu'il a portée. Je libère maintenant la puissance guérissante de Dieu sur ta tête. J'ordonne aux migraines de disparaître au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ordonne aux migraines, aux douleurs, aux mal de tête de disparaître dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute confusion dans ta tête de disparaître dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui a voulu s'emparer de ta tête, tout esprit méchant qui a voulu s'emparer de ta tête, j'ordonne à cet esprit méchant de s'en aller. J'ordonne au découragement, à l'abattement de s'en aller dans le nom de Jésus. Ça s'en va maintenant. Maintenant, j'ai dit dans le nom de Jésus. Diable, je te confronte sur la vie de mes frères et sœurs. Et je libère ta puissance guérissante sur ces têtes malades. Et je te remercie, Jésus. Jésus, tu guéris. Jésus, tu restaures complètement. Dans le nom de Jésus. Prenez possession de ce qui vous habite. Prenez-le et remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelles sont les personnes qui se bagarrent avec un problème de cancer ou avec une peur du cancer? Je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec le cancer? Pouvez-vous lever? En toute humilité, on n'est pas là à spectacle, mais j'aimerais juste prier pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peur du cancer? Est-ce que je peux vous demander, Sarah et puis mes chéris, vite aller, il n'y a pas beaucoup de monde, juste allez poser vos mains sur ces personnes. Seigneur Jésus, nous croyons cette parole de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2:24 où il est dit que dans tes meurtrissures nous avons été guéris. Je maudis tout cancer. Je maudis toute puissance de mort. Je confronte cette puissance du cancer avec le sang et l'autorité de Jésus. Je parle à ce cancer et j'ordonne à ce cancer de mourir dans ton corps. Et je prends autorité, je brise la puissance du cancer, la puissance de la mort, et j'appelle une puissance de vie, une puissance de santé sur toi. Je libère la santé sur ton corps. Ma sœur, mon frère au fond, la puissance de Dieu te touche maintenant. Je libère la puissance de Dieu qui te touche, ma sœur, tout au fond, dans le nom de Jésus. Sois touché par cette puissance de Dieu. Que ce cancer disparaisse de ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs, au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la restauration dont tu as besoin. Prends-le par la foi. Prends-le. Faites ce geste avec moi. Prenez ce que vous avez besoin. Prenez la guérison. Attribuez-vous ce que Christ a accompli. Il n'y a aucun mérite de dire « Ah non, je ne mérite pas ». C'est pas ça. Ce que Christ a accompli, il l'a accompli pour ceux qui le croient. Vous n'allez pas appauvrir Dieu en recevant la guérison. On n'appauvrit pas Dieu, on demande à Dieu de nous pardonner nos péchés. Dieu est Dieu de provision. Reçois. Reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a des problèmes au niveau des poumons. où sont là où les personnes qui ont des problèmes au niveau des poumons. J'aimerais prier pour les poumons, les problèmes respiratoires, les problèmes d'asthme. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur Jésus, que ta puissance de guérison... Tu veux juste poser tes mains, Sarah, sur les trois dames là à droite. Juste tu passes, tu poses tes mains. Vas-y, Serge, s'il te plaît. Dani, va juste poser tes mains sur les malades. Au nom de Jésus. Je parle maintenant à ces bronches, je parle maintenant à tes poumons. J'ordonne à tes poumons de commencer à fonctionner normalement. J'ordonne à tout asthme de disparaître. Je libère la puissance créatrice de Dieu qui restaure tes bronches, qui restaure tes poumons. Je libère cette puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau du diabète. Je veux parler au pancréas dans le nom de Jésus. Je parle à vos pancréas dans le nom de Jésus. Seigneur, avec l'autorité que tu m'as donnée, j'ordonne à vos pancréas de commencer à fonctionner dans le nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus, au diabète, d'être restauré, d'être guéri, et que l'équilibre revienne dans ton corps par rapport au sucre. Que ce diabète disparaisse dans le nom de Jésus. Que ton pancréas commence à nouveau à fonctionner à partir de maintenant. Que Dieu te donne la sagesse dans ta manière de t'alimenter. Mais j'appelle la santé sur ta vie, dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Merci Jésus. Merci Jésus. Dites avec moi. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Dites avec moi. Merci Seigneur Jésus. Pour ta guérison. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu me remplis du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens m'habiter. Viens me remplir. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que ma vie porte des fruits pour ta gloire. Et au travers de vous, mes frères et sœurs, Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut bénir ton environnement. Dieu fait de toi un instrument de bénédiction. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Esprit de force, sois le bienvenu. Dites avec moi, esprit de force. Esprit d'amour. Esprit de sagesse. Esprit de vaillance, esprit de santé, viens m'habiter. Je reçois ce que tu as accompli en ma faveur sur la croix de Golgotha. Et avec ton aide, Saint-Esprit, nous allons marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. De gloire en gloire. Merci Jésus. Dieu va redonner de la joie à tous ceux qui ont été touchés par la tristesse. Si vous avez vécu un deuil, perdu un être cher, ne restez pas dans la tristesse. Dieu veut déverser une huile de joie. Dieu veut déverser une huile de joie au lieu de la tristesse. Quels sont ceux qui se bagarrent avec le découragement, avec la dépression? Quels sont ceux qui se bagarrent avec ça? On s'est tous eu bagarrés parfois, mais peut-être plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette bagarre maintenant. Seigneur Jésus, je libère ta grâce, Seigneur, sur la vie de mes frères et sœurs qui ont leurs mains levées. Touche-les, Seigneur. Redonne-leur du courage. Redonne-leur de la force, Seigneur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait quelque chose qui les marque, Seigneur. Ils soient marqués par cette puissance du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit descende sur vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes frères et sœurs. Jésus va revenir bientôt. Et avant qu'il nous prenne auprès de lui, Dieu va faire encore une fois quelque chose de particulier. Dieu va déverser son Saint-Esprit sur cette génération montante. Et il aimerait que vous soyez ses témoins. Vous n'avez pas besoin de savoir prêcher. Vous voulez juste pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Ne regardez pas le verre à moitié vide. Regardez le verre à moitié plein. Et remerciez Dieu parce qu'il va le remplir. Il va le remplir. Et il va faire plus et mieux que ce que tu as pensé qu'il allait faire. Est-ce que vous voulez une parole d'un ange? Est-ce que vous voulez recevoir une parole d'un ange? J'aimerais que vous puissiez vous en emparer, cette parole. C'est une parole que l'ange de l'Éternel a adressée à Gédéon, dans Juges 6. Quand l'ange est venu vers Gédéon, il a salué Gédéon, il a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dieu te dit, mon frère, ma sœur, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. » L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il te voit d'une huile fraîche pour que tu puisses être son instrument. Je veux prier pour ceux et celles qui veulent marcher dans cette autorité, qui veulent marcher comme ce centenier, qui disent « Je vais seulement déclarer une parole. » Seigneur, je libère cet après-midi ces dons spirituels qui sont à la disposition de ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que le don prophétique vienne dans ton peuple. Je libère une nouvelle mesure, mes frères et sœurs, une nouvelle mesure de l'onction et de l'autorité de Dieu. Et en particulier sur toi, mon frère, la grâce de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un mélange extraordinaire dans ta vie entre de la douceur et de la force. Et la force va augmenter dans ta vie. Et tu vas être surpris de ce que Dieu va faire au travers de toi. Je libère une nouvelle mesure de cette grâce de Dieu sur vous, mes sœurs. Mes frères, recevez. Recevez. Une nouvelle mesure de la grâce et de l'onction de Dieu pour que vous puissiez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, et que rien ni personne ne puisse vous arrêter, parce que Dieu va répandre son esprit et il cherche des hommes et des femmes qui vont se tenir debout pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Feras-tu partie de ces témoins qui vont oser parler de Jésus, d'un Jésus qui transforme les vies, d'un Jésus qui donne sens à l'existence? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. N'abandonnez jamais, mes frères et sœurs. Soyez prêts pour quand le Seigneur reviendra. Faites en sorte qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. La Bible nous parle de 5 vierges folles, de 5 vierges sages. Est-ce que vous ferez partie des vierges sages? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez entretenir une communion avec Dieu. Vous devez entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Vous devez dialoguer avec le Saint-Esprit. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Jésus-Christ. Mais parlez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Dieu va donner de la réussite professionnelle, de la réussite dans les relations familiales. Dieu va te restaurer dans tes situations financières. Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Dieu est un Dieu d'abondance et de grâce. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je prie que vous puissiez repartir avec ce feu et cette puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix vous accompagnent. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous, pas juste dans cet instant. C'est pas juste une émotion. Le Saint-Esprit est avec vous demain, après-demain et dans tous les jours qui vont suivre. Parlez avec lui, entretenez votre communion avec le Saint-Esprit pour que Dieu soit glorifié, pour que Jésus soit glorifié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.